Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou pour cette rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des rendez-vous des fractions, du cycle des rendez-vous des fractions qui accompagne tout au long de l'année le Festival de littérature contemporaine de la BPI, Festival des fractions dont la quatrième édition aura lieu du 8 au 12 mars 2023. Ce soir, nous avons l'immense chance de recevoir Annette Wiewerka à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Je vais laisser aux éditions du Seuil, qui est sorti tout récemment. Je vais laisser Frédéric Roussel, qui nous fait le plaisir d'animer cette rencontre, la présenter et présenter son livre. Et je vous remercie encore vivement toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Bonsoir. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'être avec Annette Wiewerka, qui est historienne de la Shoah et directrice de recherche honoraire au CNRS. Annette Wiewerka a publié de nombreux livres sur l'histoire du génocide et sur l'histoire des Juifs au XXe siècle. Citons entre autres les livres du souvenir Mémorieux Juifs en Pologne, Déportation et génocide entre la mémoire et l'oubli, ou encore sur la diffusion des récits de survivants, L'ère du témoin, ou encore Auschwitz expliqué à ma fille, qui sont parus tous les deux derniers chez Plon. L'année dernière, Annette Wiewerka a publié un autre livre qui s'appelle « Mes années chinoises » où elle est revenue sur les deux années qu'elle avait passées à Canton entre 1974 et 1976. Et en cette rentrée, elle publie un livre magnifique intitulé « Tombeau, autobiographie de ma famille » dans la collection « Fiction et compagnie du Seuil ». C'est un récit émouvant et précis qui fait revivre ses grands-parents, paternels et maternels, les Wiewerka et les Perelman, d'origine juive polonaise, qui sont arrivés en France au début des années 20. Elle retrace leur quotidien à Paris, les différentes adresses où ils ont vécu et travaillé, puis les persécutions, leurs errances et la déportation à Auschwitz pour certains d'entre eux. Ceux-là ne sont pas revenus. La première question que je voudrais vous poser, Annette Wiewerka, c'est est-ce que c'est pour cette raison, parce que certains ne sont pas revenus, que vous avez intitulé votre livre « Tombeau » pour leur donner une sépulture écrite, pour leur donner une mémoire?
Alors, en intitulant ce livre « Tombeau », j'étais tout à fait consciente de la polysémie du terme. Je commence par le décès, la disparition de l'aînée de la fratrie Perelman, ma tante Berthe, qui est décédée à 92 ou 93 ans, et qui est enterrée tout à fait normalement, ai-je envie de dire. Donc il y a une tombe, mais qui n'a pas de descendance, qui n'a rien laissé. Sa fille unique est décédée avant elle, et elle a laissé aucun bien, rien. Donc l'idée, c'était de faire effectivement un tombeau de papier pour elle, pour que on se souvienne d'elle. Et puis il y a effectivement tous ceux de ma famille qui sont morts pendant la guerre et qui eux n'ont pas de tombe. Mais le tombeau, c'est aussi une pièce littéraire au XVIIe siècle, qui est une pièce littéraire en hommage à un mort. Et j'ai appris, grâce à la publication de ce livre, parce que ma culture n'allait pas jusque-là, que c'était aussi une pièce musicale et que la grande référence, c'est le tombereau de Couperin de Maurice Ravel et le tombeau de Couperin, c'est une pièce composée pendant la Première Guerre mondiale, avec à chaque mouvement le nom d'un soldat qui est mort. Alors mon savoir, je le tiens de Jean-François Zigel, qui m'a envoyé le lien pour que je regarde son émission Clé de l'orchestre sur le tombeau de Couperin. Donc c'est tous ces sens-là que je donne au mon tombeau. J'ai vu que il était question ici de stèle. La stèle, ça fait penser aussi au tombeau, mais ça fait penser un peu à la Chine. Ça fait penser au poème de Ségalène qui s'appelle Stèle. Et un journaliste, journaliste historien chinois, dont le nom m'échappe, a écrit un livre incroyable qui s'appelle Stèle et qui porte sur la période de la Grande Famine, du Grand Bourg en avant et la Grande Famine. Voilà, donc on est sur des mots qui veulent en fait que ceux qui ne sont plus là perdurent dans la mémoire des hommes.
Et depuis quand avez-vous le projet d'écrire cette, vous appelez ça aussi autobiographie de ma famille, c'est un projet que vous aviez de longue date. Et qu'est-ce qui vous a finalement décidé? Donc vous dites la mort de Berthe, mais ce projet vous l'aviez en vous depuis longtemps.
Alors j'avais un projet, mais c'était pas celui-là. Le projet que j'avais et que j'ai eu à mon retour de mes 2 années chinoises, c'était d'écrire la biographie de mon grand-père Wolf Wiewiórka, journaliste et écrivain en langue yiddish. Donc c'est un projet qui m'a occupé un certain temps, qui m'a fait suivre un peu les cours de yiddish à Paris, ceux de Rachel Hertel et ceux de quelqu'un, un grand savant qui venait d'arriver d'Argentine, qui s'appelle Yitzhak Niborski, et puis d'aller à New York faire un été, un stage accéléré de yiddish. Ce projet que je n'ai pas mené à bien, c'est quand même le projet qui m'a permis de rassembler une documentation extrêmement importante, et notamment de très longs entretiens avec mon père, avec mon oncle. Mon père est décédé en 1991. Si je n'avais pas fait à une époque où il était d'ailleurs, je me rends compte maintenant, relativement jeune, comme c'était des histoires qu'il n'avait pas beaucoup racontées, pas du tout, parce qu'il avait la moindre difficulté à les raconter, hein, c'est tout simplement que personne ne lui avait donné l'opportunité de raconter ce qu'il savait de la vie de sa famille avant la guerre. Mais si je n'avais pas fait ce travail, je n'aurais pas pu écrire ce livre. Alors, ce qui a bougé le projet, ça a été la mort de Berthe. J'ai tout de suite voulu écrire un livre sur elle que j'avais intitulé « Adieu Berthe » parce qu'on peut raconter des histoires graves avec un peu d'humour quand même. Voilà. Et parce que venait de sortir, au moment de sa mort, le film de Denis Podalydès, Adieu Berthe. Adieu Berthe. Et il y avait des points communs entre les deux femmes, pas beaucoup, mais suffisamment de points communs, et en tout cas, le même prénom. Et dans l'histoire de Berthe, il y avait une histoire, alors extrêmement banale, d'avortement dans l'après-guerre, d'avortement en 1946, le 23 août 1946, pour être tout à fait précise. Et cette histoire avait pesé très lourd dans l'histoire de la famille. Elle a failli mourir. Mon père, qui n'était pas français, n'avait pas pu être naturalisé. Enfin, c'est une histoire vraiment qui a, comme disait ma mère, empoisonné la vie de notre famille. Donc il y avait cette histoire. Et un jour, je suis en Ukraine, à Lviv, à Lemberg, Lviv-Vov, et un de mes jeunes collègues, pour faire une formation de prof, et un de mes jeunes collègues qui s'appelle Grégoire Kaufmann, qui a écrit un certain nombre de livres aussi, et qui est le fils de Joël Brunery Kaufmann, qui a été une grande militante du MLAC, enfin des années héroïques de lutte pour la contraception, enfin pour la libéralisation de la contraception et la dépénalisation de l'avortement. Donc c'est avec les histoires que ces histoires-là m'intéressaient. Et il me montre un mail, et c'était le mail de la petite fille du médecin qui avait pratiquer l'avortement. Et la petite fille faisait une recherche sur son grand-père et dans le mail, elle donnait toutes les codes d'archives. Et c'est en fait cela qui a déclenché l'idée de prendre ensemble les deux familles, puisque dans l'histoire de cet avortement, c'est en gros les Viviorca, c'est tous des jeunes gens qui ont trouvé le médecin. Donc cette histoire, elle joignait les deux familles. Si on veut écrire une histoire de famille, il faut trouver une façon de la raconter.
D'accord.
Parce que l'histoire est intéressante si on trouve
Oui, parce que vous parlez de Berthe au début et donc de cette histoire d'avortement,
oui.
Et vous l'évoquez. Et en fait, le dernier chapitre,
voilà.
C'est ce que vous appelez l'accident,
l'accident oui.
Qui est en fait l'histoire où vous décrivez ce qu'il y a dans les archives et comment plusieurs membres de votre famille ont été inquiétés.
Absolument,
et votre père n'a pu avoir la naturalisation que très tard, du coup, en 63.
Et grâce à un personnage... qui s'appelle Joseph Herschmann, et on disait que c'est parce qu'il jouait au bridge avec un préfet. Mais ça, c'est aussi très, très intéressant, c'est que le médecin est très lourdement condamné. Donc la famille du médecin, il est condamné à 4 ans de prison ferme, qui vont être un peu réduites en appel, interdiction d'exercer la médecine, relégation, et il est expulsé. Et il ne reviendra plus jamais en France, un médecin polonais, juif polonais. Les autres sont condamnés à des peines de prison avec sursis qui vont de 4 à 10 mois, sans que je comprenne la logique, pourquoi il y en a un qui a pris... Mon père, 4 mois, son frère, qui n'a pas fait plus que lui, 6 mois, avec sursis. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des peines non inscrites au sommier judiciaire, amnistié. Mais l'amnistie ne veut pas dire que la police a perdu la mémoire. Et quand il y a une demande de naturalisation, il y a une enquête. Et cette chose qui ne devrait figurer nulle part, elle est dans l'enquête. Et ça l'a empêché d'être naturalisé pendant... Enfin, il est arrivé en France, il avait, je sais pas, 1 ou 2 ans. Il avait passé plus de 40 ans en France, qui était son seul pays. Il était parfaitement, intégré, il parlait sans accent. Enfin bon, il était français, quoi.
Alors, vous disiez justement que vous avez eu envie de raconter les deux histoires des deux branches de votre famille, donc les Viviorca et les Perelman, de manière parallèle. Ce qui est un choix parce que en fait finalement elles ne se rencontrent, elles ne se croisent finalement qu'à la fin, qu'après la guerre en 46, quand votre père rencontre votre mère. Pourquoi ce choix de tresser finalement quelque part ces deux familles sur ces 25-30 années qu'est-ce qui
peut-être effectivement, le décès de Berthe et d'Evelyne, ma cousine, c'est le sentiment que ces vies-là aussi méritaient d'être racontées. Donc c'était effectivement un peu compliqué. Et puis il y a aussi un intérêt un peu d'historienne ou de sociologue. C'est-à-dire, on a deux familles, deux familles qui émigrent de Pologne, même période. Début des années 20, qui est la grande, comme j'ai envie de dire, comme tout le monde, comme beaucoup, sont de milieux milieu social toutes les deux excessivement modestes, dont la seule langue est le yiddish, et qui viennent à Paris. Et en dehors de ça, elles sont si différentes. Donc il y avait aussi ce désir peut-être de montrer comment dans une immigration les choses peuvent être à ce point différent. Et alors là, J'ai tenté de les réunir tout de suite. Et puis je me suis dit, le lecteur qui se perd déjà un peu dans les personnages, donc Bernard Comment, un de mes deux éditeurs, m'a fait rajouter un arbre généalogique.
Ça, c'est bien.
Donc on se paume un peu, mais est-ce si important? J'en sais rien. Mais si j'avais, dès le début, fait ensemble, alors là, c'était la confusion. Donc, après ce petit chapitre-là, Adieu Berthe, j'ai fait du côté des Viviorca, du côté des Perelman, et je les ai réunis quand en fait ils ont un point commun, comme beaucoup de ces immigrés, qui sont l'engagement politique à gauche, même si du côté maternel c'est plutôt du côté des communistes juifs, et du côté paternel du côté des socialistes de ce mouvement qui s'appelait le Bund. Alors, socialiste dans les années 30 et même encore après la guerre, c'est socialiste marxiste et quand même révolutionnaire. Il ne faut pas penser que les socialistes, c'est comme le PS d'aujourd'hui ou d'hier. Voilà, donc là, il y a quelque chose qu'ils ont en commun, qui est le soutien à l'Espagne républicaine, la façon de vivre le Front populaire comme un moment de grande embellie. Donc il y avait vraiment possibilité de les... Enfin, c'était... Bon, ça avait du sens de traiter ensemble de ces années-là. Et puis après les années de guerre, parce qu'en fait, ils se croisent quand même sans se croiser, sans se connaître. Ils se croisent à Nice, où Roger Perelman, mon oncle, fils de mon grand-père, se trouve aussi réfugié. Lui ne cesse de se faire arrêter, de s'évader, de se faire réarrêter. Et en octobre, à partir du printemps 1943, il est à Nice, comme mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Et ils sont déportés dans le même wagon, sans se connaître, avec la même adresse. Donc, à mon avis, ils habitaient au même endroit à Nice, hein, sans se connaître du tout. La seule différence, c'est que Roger Perelman, après 15 mois de travail forcé la nuit au fond de la mine de Jana Grube, a survécu et est revenu, alors que les autres ne sont pas revenus. Donc, il y a ce croisement... aussi à Nice.
Vous disiez qu'ils étaient effectivement ces deux branches qui sont un peu la même génération, oui, d'origine juive polonaise, de la même sensibilité de gauche, ouais, même si. En même temps, vous dites aussi dans votre livre que finalement les Viviorca, c'était ceux qui étaient les plus prolixes, et votre grand-père était écrivain, journaliste, et que les Perelman, ils étaient plutôt taiseux. Et le paradoxe que vous dites aussi, c'est que finalement, dans les archives, vous avez trouvé plus de choses sur les Perelman que sur les Viviorca. Hein, c'est ce que vous dites.
Oui,
c'est ça. Pourquoi? Comment expliquez-vous?
Parce que je pense que chez les Viviorca, la légalité n'était pas du tout une préoccupation. Alors, c'est une famille extrêmement baroque. D'abord, le premier baroquisme, c'est que donc mon grand-père, Wolfgang Viviorca, quitte la Pologne, pas du tout pour des raisons économiques, parce qu'il veut écrire, il veut être écrivain. Et il veut fuir ces milieux étouffants de Hassidim, qu'on connaît bien maintenant grâce notamment aux séries israéliennes. Donc c'est ça qu'il fuit. Donc il fait un périple. Il avait un frère aîné, Avroum, qui avait fait le même itinéraire et qui lui aussi a été écrivain yiddish. Et il fait connaissance de ma grand-mère, qui, elle, avait quitté pour des raisons qui n'ont jamais été d'une grande clarté, qui, elle, avait quitté son mari, dont on connaît que le nom de famille et le surnom qui était le Rouquin, dont on disait beaucoup de mal, enfin le mal. Et elle le quitte avec trois filles. Une née en 14, une née en 15, une née en 18 ou 19. Donc, comment une femme peut quitter un tout petit village, s'appelle Mrozerie, de Pologne, et se lancer sur les routes avec... les filles, on lui aurait apporté. On n'a jamais compris. Alors, tardivement, comme c'est un livre, continue à me tourner dans la tête. Je me dis, oh là là, il y a quand même un grand écart. Il y a la fille aînée, Anna, ensuite Esther. Et puis, il y a plusieurs années avant Ténère Thérèse. Et mon oncle, qui riait de tout, disait, oh là là, on n'aurait jamais dit qu'elles étaient sœurs tellement elles étaient différentes. Donc, souvent, je me suis dit, mais elle a peut-être trompé son rouquin, c'est peut-être pour ça. Et le rouquin l'a peut-être mis en dehors et lui a dit, tiens, garde tes filles. Mais ça, on n'en sait rien. Voilà. Et puis, ils arrivent après un périple, Berlin, la Belgique... en France et ils gagnent leur vie avec beaucoup de difficultés et les papiers sont jamais à jour, ils sont arrêtés, il y a des démarches pour qu'ils soient pas expulsés et en plus ils avaient rien, donc comme ils avaient rien, leurs biens n'ont pas été arianisés comme on dit en langue nazie, donc il y a très peu de traces archivistiques sur...
Ils ont quand même eu... Je trouve que c'est des jolies pages, ce restaurant...
Alors le restaurant...
Derrière le Panthéon, voilà, c'est ça, oui, au rendez-vous des étudiants.
Je pense que c'est à l'emplacement de l'actuelle église libanaise. Mais alors il faut s'imaginer que la rue d'Ulm, c'est pas la rue d'Ulm, et que le restaurant, c'est pas un restaurant, c'est une sorte de cantine où... tous les intellectuels précaires, les artistes, les écrivains, les grands écrivains, hein, parce que c'est pas parce qu'ils n'avaient pas le sou qu'ils n'étaient pas des grands écrivains. Je pense à un poète qui s'appelait Itzik Manger, qui est probablement un des plus grands poètes de langue yiddish, les peintres. Une femme peintre qui s'appelle Esther Karp, qui est maintenant exposée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Tout le monde fréquente ce restaurant où on mange...
Ça, c'est les années 29.
C'est entre 29 et 32. Et c'est une période de la vie que mon père a adorée. Donc tout le monde fréquente le restaurant, c'est-à-dire les intellectuels, les joueurs d'échecs, il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui peignent, et il y a les étudiants en médecine qui ne peuvent pas étudier la médecine en Pologne ou en Roumanie à cause du numerus clausus, et en particulier le médecin qui va procéder à l'avortement de ma tante. Et mon hypothèse, c'est que... Alors lui, il le raconte, hein, il fait un mémoire en défense, il raconte qu'il allait dans ce restaurant à la fin du mois, quand ils n'avaient plus d'argent, à crédit, et puis au début du mois, il payait, et puis il revenait. Et mon hypothèse, c'est que cet étudiant en médecine pratiquait déjà des avortements. Et cette hypothèse, elle est confortée par le fait que mon grand-père a écrit deux recueils de nouvelles. Et le premier recueil de nouvelles, qui ont été traduits en français par la Maison de la Culture Yiddish, ça commence par Goldman, le nom du médecin. Et c'est l'histoire d'un homme qui veut se débarrasser de sa maîtresse qui n'est pas juive. Et enfin, qui veut s'en débarrasser, qui veut pas l'assassiner, hein, qui veut se la quitter. Et justement, il y a une affaire de femme. Et il lui dit, fais comme tout le monde, débarrasse-toi voilà. Donc ça commence par, et c'est ce nom-là qui ouvre la première nouvelle. Ce qui m'a empêché d'ailleurs de l'anonymer, ce que j'aurais fait volontiers. Autrement, parce que...
Donc c'est le même médecin qui...
Et c'est le même médecin
qui en 46...
Procède à...
L'avortement de Berthe.
De Berthe et de la compagne de mon oncle de l'époque. Et apparemment, c'est un bon médecin, ça se passe toujours bien. il se fait aider par un autre médecin qui fait une anesthésie générale, et puis il y a un accident qui va lui être fatal au médecin.
Je voudrais revenir sur votre grand-père, Wolf Wiewiórka, dont vous avez raconté son arrivée de Pologne. C'était donc un écrivain yiddish. Il était aussi journaliste. On le voit créer plusieurs revues, avec une espèce de... On devine dans votre livre une personnalité hors du commun, et une figure en plus qui côtoyait beaucoup de gens à l'époque. Apparemment, il connaissait Soutine, Chagall, etc. Et donc, c'est sur ce grand-père que vous aviez eu l'intention au départ de faire une biographie. Et donc, et on a l'impression que ce grand-père, c'est finalement celui qui permet au livre aussi, à travers ses écrits, puisque vous dites qu'il y a eu deux recueils et qui ont été publiés, resituer l'atmosphère de l'époque. Puisqu'il observait beaucoup ce qui se passait dans la société, comment ça se passait à l'égard des juifs, comment ça se passe dans le début de l'occupation, etc., jusqu'en 1939. On a l'impression que cet oncle est un peu ce grand-père plutôt, est un peu le pilier quelque part, reste le pilier quand même de ce livre.
Oui, et puis, comment dire. Je pense que chaque être humain a une inquiétude sur sa disparition. Et qu'il y a le désir de laisser une trace. C'est peut-être ça qui fait qu'on a des enfants, qu'on écrit, ou qu'on peint, ou qu'on fait je ne sais trop quoi. Et pour moi, il y a une supériorité de l'écrit. Parce que si je peux imaginer qui était ce grand-père que je n'ai pas connu, c'est bien parce qu'il a écrit. Voilà, donc ça a aussi à voir avec l'écriture. Mais c'est vrai que c'est un journaliste, il allait, comme il disait, Imgas, dans la rue, il fréquentait les cafés, alors les cafés qui sont qui existe toujours, hein, les cafés de Montparnasse, le Dôme, la Coupole, qui étaient les cafés où il y avait, qui était le quartier des peintres, les cafés de la place de la République. Et puis il se promenait et rencontrait des gens. Et alors que je peux très difficilement reconstituer ce qu'a été leur vie à Nice, il y a juste une trace policière. Il est contrôlé, il y a un rapport de police dans un café où il est en train de jouer aux échecs avec 30 autres personnes qu'il dit ne pas connaître. Et je me suis dit, à Nice, il a retrouvé la même sociabilité qu'il avait à Paris, c'est-à-dire les cafés. Les gens vivaient beaucoup dans les cafés. Et ça a été un grand joueur d'échecs. Grande passion pour les échecs.
Et donc, il écrivait à la fois de la fiction, ouais. et il faisait des articles, c'est ça?
Oui.
Ouais.
Et il y a un roman qui est inachevé. Peut-être qu'un jour, quelqu'un qui est manuscrit, hein, en yiddish, donc il faudrait le faire taper, et que quelqu'un le traduise. Peut-être que je vais m'en occuper.
Et alors justement, toujours ce grand-père, parce que on le voit, enfin, on voit que c'est un sacré personnage, et que grâce à lui renaît aussi cette époque-là. Ce grand-père tenait à ce que ses enfants aient une éducation. Enfin, parle le yiddish, enfin, je crois que votre père et son frère parlaient le yiddish, le lisaient. Donc il y avait un besoin de transmission du côté Wiewiórka qui a l'air pour le coup, pas très fort du côté Perelman. Et on sent aussi dans votre livre qu'il y a cette question de la transmission de la judéité revient à plusieurs reprises, soit pour dire qu'effectivement de son côté lui il avait voulu transmettre quelque chose et que l'autre branche était moins peut-être de ce point de vue-là il n'y avait pas de fête juive, on ne célébrait pas. Et en même temps, vous constatez que finalement, ça a été, il y a quelque chose qui a été coupé jusqu'à votre génération.
Oui.
C'est quelque chose qui vous taraude, on a l'impression.
Oui, du côté maternel, il y avait un grand désir de réussite sociale qui s'exprime par le choix de l'appartement. Et mon oncle Perelman, qui est devenu un très grand pédiatre après la guerre, a écrit ses mémoires, hein, Une vie de juif sans importance. Et il a une très belle phrase un peu compliquée en disant que ce qu'on voulait, c'était la réussite sociale, que la question du bonheur n'était jamais posée, peut-être parce que la réussite sociale devait comporter le bonheur, enfin, c'est une phrase un peu compliquée que je cite. Donc c'était ça, le désir. Le désir, c'était de réussir socialement. Chose totalement absente chez les Viviorca. Mais chez les Viviorca, chez Wolf, il y avait une idée très claire de ce que c'était que d'être juif. Pour lui, être juif, c'était parler yiddish et de faire vivre une culture juive dans les pays où les juifs habitaient. D'où cette chose qu'avait fait son frère, aussi son frère aîné Avroum. On arrive quelque part, on crée un journal, on crée un deuxième journal et on apprend le yiddish aux enfants. C'est-à-dire qu'après l'école, on apprend à lire et à écrire le yiddish, qui est la langue de la conversation. Et quand arrive Hitler au pouvoir, et quand Wolf Viviorca, qui sentait bien l'époque, constate que les choses se gâtent, il intervient dans un grand débat autour du thème qui s'appelle le retour au ghetto. C'est le retour symbolique. Et il écrit dans un article dans le grand quotidien yiddish de l'époque, il écrit qu'on vit une période où il est impossible de ne pas être juif et difficile de l'être. Impossible parce que le nazisme, et après le nazisme sera secondé en France par Vichy, donne une définition de qui est juif, qui est une définition généalogique. Donc on n'a pas le choix, on peut être converti, on peut être plus sentir juif du tout, mais on est désigné comme juif. Et il dit, voilà, il faut savoir pourquoi on est juif et trouver la force dans la culture, dans nos grands écrivains. On n'a pas à être fier de Spinoza ou Freud, mais il faut être fier de Shalom Aleichem, Isaac Lebush, Peretz, Mendeleim, Sforim, Maurer Sforim. Et quand toute cette histoire sera terminée, on sera réintégré dans les nations parce que l'on aura maintenu notre culture. Et c'est là que la lucidité lui fait défaut, mais comment aurait pu-t-il l'être ? C'est-à-dire qu'il n'imagine pas que cette histoire terminée, il n'y aura plus les millions de locuteurs yiddish, et que ça sera le glas, même si ça perdurera un petit peu, de la culture yiddish. Et chez mon père, c'est du moins la compréhension que j'ai des choses. Hein. Chez mon père, qui était très proche de son père, qui avait traduit certaines de ses nouvelles en français dans les années 30, quand il était un adolescent, il y a la même idée sur ce qu'est ce que c'est que d'être juif. Et lui aussi s'occupe d'un journal qui s'appelle Le Réveil des Jeunes. Mais quand il apprend que son père ne rentrera pas, il arrête. Et à mon avis, la coupure dans la transmission vient de la disparition de cette branche de la famille. Et aucun d'entre nous, les deux branches Viviorca confondues, n'a été élevé dans une quelconque culture juive, même si on était juif d'évidence. Hein, mes parents n'ont jamais été des juifs honteux. Ils n'ont jamais caché, ils nous ont jamais caché qu'on était juifs. Je le dis parce que, en ce moment, il y a le livre de Sonia De Villers, Les Exportés, où la situation de la famille est tout à fait différente. Donc, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Alors, je voudrais dire que c'est un courant qui a perduré, ce courant. Les plus âgés se rappellent peut-être de Richard Marienstrass, être un peuple en diaspora. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu l'idée, puis on le retrouve, il y a une revue en ligne qui s'appelle K, K comme Kafka notamment. Il y a toujours cette idée qu'on peut développer une culture juive dans la diaspora. Mais c'est vrai que sans qu'il y ait de masse juive, comme on disait, de langue, la chose est plus compliquée.
On a parlé beaucoup de Wolf Viviorca. Il y a un autre personnage qui est assez haut en couleur dans votre livre, qui est votre grand-mère maternelle, Hawa, c'est ça, Hava?
Oui, Rava. C'est Ève en fait, Rava. Ouais.
Donc qui est la femme de Chasquel, qui lui est tailleur, on disait que c'était le meilleur tailleur de Varsovie, c'est ça,
bon.
Aiguille d'or.
Ouais.
et donc qui est une femme assez impressionnante. D'ailleurs, on se demande comment vous avez pu retrouver, alors j'imagine par les témoignages de votre mère, de votre tante, quelle était la personnalité de cette femme qui se débrouillait toujours partout où elle arrivait pour trouver un lieu pour loger ses enfants et sa famille. C'est un personnage qui mourra tragiquement pendant l'exode, hein, c'est ça. Après l'arrivée du Veldiv. Mais c'est un personnage assez impressionnant.
Oui, alors il y a les témoignages de ma mère, le témoignage de mon oncle. Il y a aussi les mémoires écrites par un de ses frères en yiddish. Donc j'ai plusieurs. Alors, c'est pas du tout un effet de mode. Hein. Je ne suis pas en train d'exprimer un féminisme, que j'ai bien sûr, mais c'est vraiment les femmes qui ont permis à toutes ces familles de survivre. Ma grand-mère paternelle qui montait des restaurants, qui faisait toutes sortes de métiers sur sa... Au moment de la déportation, elle met comme profession à Nice masseuse. Bon, donc elle inventait des métiers. Et ma grand-mère maternelle qui faisait tout tourner. Mon grand-père était à la machine toute la journée et elle régentait la maison, elle s'occupait de la clientèle. Pendant la guerre, elle a fait un très fructueux marché noir en allant chercher du tissu, en se l'enroulant autour du corps pour prendre le métro et pour permettre à son mari de continuer à travailler. Et effectivement, c'est elle qui a toujours trouvé les passeurs. Quand mon oncle, après s'être évadé de Pithiviers, est rentré à Paris, c'est devenu dangereux, les passeurs. Et c'est elle qui a organisé, après la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942, le passage de la ligne de toute la famille. Et c'est très curieux, parce que je ne me l'étais pas exprimé comme ça, mais ma fille me dit, Tu sais, c'est trop triste de voir comment elle a sauvé toute la famille et comment elle est morte. En fait, elle et ma mère ont passé la ligne
à Saint-Jean-des-Vignes, c'est
ça ? À Saint-Jean-des-Vignes, oui. Mmh. Et les Allemands ont tiré sur la barque a coulé. Et ceux qui ne savaient pas nager, c'est ma grand-mère et un couple dont j'ai retrouvé le nom, les Ornstein, se sont noyés. Et le passeur a remboursé le passage à ma mère. Voilà, donc c'est effectivement, effectivement quand on le regarde, effectivement, elle a sauvé tout le monde, sauf elle, quoi.
Il y a des passages, justement, parce qu'on on voit qu'il y a des moments déterminants à certaines périodes, vraiment déterminants, parce que c'est des questions de vie ou de mort. C'est est-ce qu'il faut quitter Paris en 1940 ou rester à Paris ? Il y a une rafle, un moment, une rumeur de rafle des femmes et des enfants. Est-ce qu'il faut rester ou partir ? Est-ce qu'il faut rester à Nice ou quitter Nice au moment où les Allemands arrivent après l'armée italienne ? C'est à chaque fois des moments où on voit que on est aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé. Enfin, vous savez ce qui s'est passé, et en même temps, c'est des moments où on voit que vous êtes là et en regardant rétrospectivement que c'était des moments où il y a peut-être eu des débats, il y a des discussions, et puis c'était comme à pile ou face. Et on sent que ces moments-là sont particulièrement aigus dans votre livre.
C'est vraiment une question que je me pose depuis très très longtemps, mais je crois qu'on peut tous se la poser, et que la dernière période qu'on a vécue entre le Covid et l'Ukraine permet vraiment de se poser. Bon, moi j'ai fait beaucoup de conférences publiques sur tel ou tel sujet, sur Auschwitz, et généralement il y a quelqu'un qui se levait et qui dit « Madame, on savait tout, Roosevelt savait, Churchill savait. » Bon. Et chaque fois ça me heurte, et on essaye d'expliquer. Là j'ai essayé vraiment de me mettre d'essayer de me mettre à leur place au moment où il faut prendre une décision. Nous, on connaît la fin de l'histoire, c'est-à-dire on sait que la décision qui a été prise a abouti soit à la survie, soit à la mort. Mais eux ne le savent pas. Et chaque fois, avec les éléments dont je disposais, c'est-à-dire pas énormément, j'ai essayé de réfléchir à ce qui faisait que certains choisissait de gagner la frontière, ce qui n'était pas facile, hein, de gagner la frontière pour essayer de passer en Suisse, alors que d'autres ne le faisaient pas. Donc c'est une réflexion, et c'est vrai que quand on écrit pendant le Covid, où au début on n'a rien compris, vous vous rappelez quand même les courses, l'idée que le papier... je suppose qu'ici, ça a été comme aux archives, il fallait laisser les livres en quarantaine avant de les sortir pour pas qu'ils soient porteurs du virus. Enfin, on a dit beaucoup de sottises au début du Covid. Et puis, ceux qui ont pensé que c'était une grippette. Enfin, un certain nombre de choses qui fait qu'on a été au cœur d'un événement collectif, mondial, et dont on ne connaissait pas bien la nature, et dont on ne savait pas, on ne sait toujours pas, comment il se terminerait, puisqu'apparemment il n'est pas complètement terminé. Voilà, donc c'est ça que j'ai tenté de faire.
Et c'est marrant parce qu'il y a aussi des blancs parfois où vous regrettez de ne pas avoir plus eu d'informations. Notamment, je crois que c'est dans le cas de votre père, Abby, qui part, alors c'est en 40, il part avec son père, oui. Orléans, etc., jusqu'à Bordeaux, Toulouse. Ouais. Et puis, à un moment, il en a marre.
Il remonte.
Il remonte. Et il y a un moment, vous ne savez pas trop comment il est remonté, en fait. Et vous dites, et mince, je ne sais pas comment il a pu remonter.
Et c'est lui qui n'a jamais réussi à retrouver dans sa mémoire comment il était remonté. Et c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes, qui est que parfois on oublie sans qu'il y ait de raison particulière d'oublier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'occultation, le refoulement, le tabou, il y a tout simplement ce qu'on oublie. Et donc chacun peut faire l'expérience sur soi-même.
Et vous dites un moment, j'ai longtemps imaginé ou rêvé que Wolf reviendrait.
Oui.
Parce que finalement, le pire, est-ce que c'est de ne pas savoir ce qui s'est vraiment passé ? Parce que si vous avez...
Je pense qu'il y a eu un...
Vous avez déterminé qu'il était mort au moment de l'évacuation du
Alors,
camp, c'est ça ?
L'avantage d'être écrivain de langue yiddish, c'est que les écrivains yiddish connaissaient tous de noms de plumes. Or, le ghetto de Lodz a été le dernier grand ghetto liquidé, comme on dit en langue nazie, et les survivants de Lodz, ceux qui n'avaient pas été gazés à Rimno et pas morts de faim, sont arrivés à Auschwitz à partir de l'été 44, donc relativement tard. Et au moins deux écrivains racontent comment ils ont rencontré mon grand-père, qui travaillait au tri des bagages qu'apportaient les déportés dans un commando qui s'appelait le Canada. Donc il y a des témoignages, et tous les témoignages disent qu'en fait il a vécu jusqu'à la fin, jusqu'à l'évacuation du camp, et qu'il est mort pendant l'évacuation.
Et ça vous a hanté de ne pas, enfin, pas savoir... Quand vous dites j'ai longtemps rêvé qu'il reviendrait,
voilà. Et surtout, comme il y avait des témoignages, je pense que mon père n'a pas cru vraiment qu'il était mort. Donc je crois qu'il y a eu, pour beaucoup de ces morts tellement floues, avec des dates qu'on connaissait pas, des circonstances qu'on connaissait pas, il y a eu cette idée qu'il pourrait revenir. Je ne sais pas si... certains d'entre vous ont vu ce film magnifique d'Emmanuel Finkiel qui s'appelle Voyage. Et il y a une histoire de quelqu'un qui pense qu'il est en Russie, il est amnésique, il va revenir. Donc je pense que beaucoup n'ont pas cru vraiment qu'il pourrait mourir, quoi. Enfin, qu'il pourrait ne pas revenir. Et moi, j'ai cru que... Il y avait un feuilleton, je raconte ça, de Pierre Dac et Francis Blanche, Malheur aux barbus. Et j'ai cru qu'il racontait comment le grand Furax, qui s'appelait Pandolphe, faisait disparaître les barbus après les avoir marqués, les avoir transportés dans des autobus. Et on retrouvait les barbus. Quand je me suis intéressé à cette idée d'enfant que les barbus... Mon grand-père portait la barbe. C'était pas du tout la mode à l'époque. Quand vous avez une photo d'un congrès de culture yiddish, vous voyez, c'est le seul barbu. Donc, j'étais persuadé que un barbu croisé dans la rue était mon grand-père. Et que Malheur aux barbus, c'était un code pour faire ressurgir les barbus. Et il y a quelques années, les émissions de Signé Furax, Malheur aux barbus, ont été publiées. Et c'est là, donc je m'y suis intéressé, j'ai lu une biographie de Pierre Dac, de son vrai nom Isaac, écrite par quelqu'un qui s'appelle Jacques Pessis. Et il dit qu'il écrivait son feuilleton le jeudi, et que quand il écrivait son feuilleton, il ne se rasait pas. Or, Ne pas se raser, c'est le signe de deuil chez les Juifs. On commémore la destruction du temple en ne se rasant pas. Et puis c'est aussi l'appartenance au barbu s'il ne se rase pas. Et j'ai appelé Pessis. Je lui ai dit, voilà mon hypothèse. C'est qu'en fait, quand il écrit signé Furax, feuilleton loufoque, il parle des Juifs. Est-ce que ça vous semble valable comme hypothèse? Et il m'a répondu que oui. Et je pense qu'effectivement, signer Furax, c'est une façon, enfin malheur au barbu, c'est une façon détournée d'évoquer le sort des Juifs. C'est très drôle. Hein. C'est même un peu fatigant tellement c'est drôle à lire. Tellement il y a un jeu de mots, toutes les trois jeux de mots par phrase.
Vous terminez votre livre sur une phrase et qui est étonnante parce qu'elle ouvre en fait sur d'autres histoires. C'est, vous dites, mais ce sont d'autres histoires, parce que vous parlez à ce moment-là de l'ami,
bah oui,
de l'ami de votre mère Rachel, qui s'appelait Léna, et vous dites, bon ben, elle a émigré aux États-Unis et donc elle n'est pas restée dans la famille quelque part, ou elle n'est, parce qu'à un moment elle était avec un de vos oncles. Et là, vous dites, mais ce sont d'autres histoires. Et je me disais que finalement, ces dernières années, il y a eu beaucoup de récits de famille sur la guerre ou sur le génocide. Que pensez-vous cette multiplicité de récits? Alors, c'est peut-être que justement, il y a un âge où on arrive, où il n'y a plus de témoins, ou donc
Alors, j'aurais pu vous dire oui, mais ce n'est pas ça qui se passe. Quand vous regardez cette rentrée littéraire, juste cette rentrée littéraire, il y a trois autres livres, en dehors du mien, qui abordent ces questions. Il y a le livre de Lola Lafon, qui a passé une nuit au musée Anne Frank. Je ne sais pas quel âge a Lola Lafon, mais elle est quadra ou 50 ans maximum. 40 années, quoi. Oui. Il y a le livre de Chloé Corman, Les Presque Sœurs, chez le même éditeur. Chloé Corman, elle est très très jeune, plus jeune que Lola Lafon. Quel âge elle a? Pas 40 ans. Et il y a le livre de Sonia De Villers, qui est un peu décalé, en fait. Voilà, mais qui évoque aussi l'histoire de la guerre. Et Sonia De Villers, quel âge elle a? 45 ans peut-être. Voilà. Donc, et la rentrée d'avant, c'était Anne Berest, de La Carte Postale.
Grand succès.
Elle aussi, elle a quel âge? 40 ans, peut-être. Bon. Donc, le phénomène actuel, c'est pas les retraités comme moi, les derniers à avoir vécu dans l'ombre portée et à avoir un peu de cette mémoire vive. C'est des très jeunes et qui se posent d'ailleurs. C'est quand même un point commun, en tout cas entre Sonia De Villers et Lola Lafon, qui se pose la question de leur judéité, de leur rapport à cette histoire, qui est quelque chose qui n'est plus une de mes préoccupations. Donc c'est beaucoup les jeunes, les plus jeunes.
C'est vrai.
Alors je pense que c'est lié à... Bon, en dehors du fait que chacun a envie d'écrire ce qu'il écrit, mais c'est effectivement la perte de la mémoire vive, de la mémoire dans les familles, qui coïncide avec l'ouverture des archives. Et c'est très facile de retrouver beaucoup de choses. Sonia De Villers, c'est l'histoire de comment on a échangé des Juifs contre du bétail. Et toutes les listes, toutes les archives qui étaient bien cachées en Roumanie, puis cachées aussi en Israël, parce que il y a eu d'abord un intermédiaire, puis ensuite le Mossad, donc c'était vraiment là un secret. Bon, les choses s'ouvrent. Donc je pense que c'est les deux, c'est-à-dire ça permet de travailler sous forme d'une enquête. Et c'est ce que font... c'est ce que font les jeunes, quoi. C'est pas...
Oui, l'ouverture des archives aussi.
L'ouverture des archives. Ouais, ouais. La facilité d'accès aux archives, la grande facilité.
Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, juste en France. Hein, d'autres pays, il y a beaucoup d'écrivains qui font des romans plus ou moins historiques sur la Deuxième Guerre mondiale, avec l'ouverture des archives, que ce soit en Lituanie. Je vais vous poser une dernière question, peut-être, après, pour laisser s'il y a des questions dans la salle. Vous dites une phrase assez... la pandémie m'avait donné un sentiment d'urgence. Il fallait le terminer avant de disparaître. Ce serait mon dernier livre. Ce qui est, c'est pas à la toute fin, mais c'est presque vers la fin. C'est dans l'avant-dernier chapitre que vous dites ça. Donc, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sera le dernier, ou c'est une manière...
Écoutez, c'est une possibilité que ce soit le dernier, mais c'est surtout un... Si vous voulez, c'est surtout un livre qui fait un peu le tour de toutes les questions qui ont été dans mes autres livres. C'est-à-dire, c'est un livre qui clôt un très très grand cycle. Donc, à mon âge, est-ce que je peux rouvrir un cycle ? Je ne le crois pas. Donc, il est possible que j'en fasse d'autres, mais j'ai aussi le sentiment d'un aboutissement avec ce livre. Donc, je me dis, je pourrais jamais faire aussi bien. C'est aussi, on ne peut pas faire un livre qui est moins bien que le précédent. Et puis, bon, j'ai vu, j'ai certains historiens que j'aimais beaucoup, que je ne citerai pas, comment les livres faits après sont...
Faits après les grands livres, vous voulez dire ?
Après les grands livres, sont si loin du niveau que... il ne faut pas faire un livre de trop, quoi.
D'accord. Voilà. Ah, merci, Anne Diurk. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, dans la salle ? Est-ce que...
Bonsoir, mesdames. Je peux vous suggérer simplement, sur un plan très ironique, vous pouvez faire un dernier livre qui s'intitulerait « L'éternel retour », deux points, et puis... page blanche après, donc vous n'auriez pas répété ce que vous avez déjà écrit. Voilà. Sinon, pour revenir à Sonia de Villers, ce qu'elle évoque, là, ça indique un humour juif très grinçant de la part de ceux qui ont pratiqué ce genre d'échange. Vous voyez ce que je veux dire concernant le bétail et la population juive de Roumanie. C'est un humour grinçant de la part de ceux qui sont à l'initiative de ce genre de tractation. Voilà, je vous remercie pour le reste de vos travaux.
Merci.
En fait, ce n'est pas une question directement, mais déjà des remerciements parce que je n'ai pas fini votre livre, je l'ai acheté tout récemment. Je vous ai entendu à France Culture et j'ai été vraiment passionnée par cette recherche que vous avez faite. Et je suis particulièrement passionnée aussi parce que cette recherche me touche directement. Et j'aimerais en parler plus tard avec vous, si vous le voulez bien. En tout cas, je vois qu'on est nombreux à avoir des choses familiales qui ont été à élucider. Voilà.
Vous avez raison et je vous donnerai mon mail si vous voulez après. Et on pourra discuter.
Merci beaucoup.
D'autres questions peut-être ? J'en avais une dernière encore. Vous êtes allé en Suisse sur les traces de votre père, puisqu'il n'est pas resté à Nice, lui, et il est parti avec son frère.
Oui, sinon je ne serais pas là.
Vous ne seriez pas là. Et donc, vous êtes allé sur les lieux, vous avez voulu retourner voir les camps de travail où ils ont été pendant un an et demi. Oui. Est-ce que c'est important de revenir comme ça sur les lieux, de voir ce qu'il en reste, de voir où votre père, à l'époque il avait 23 ou 24 ans, je crois, c'est ça, avait été?
Oui, je pense que c'est... Enfin, oui et non.
Parce que vous dites qu'il n'en restait rien, en fait.
Mais Gironbad, il reste un petit peu. Moi, ça fait vraiment longtemps maintenant que je fais ça, d'aller sur les lieux, parce que c'est à la fois les lieux, j'avais fait ça pour Thorez, hein, mais en même temps, vous glanez des documents ou des informations ou des publications que vous ne... trouvez pas hors des lieux. Et il y a quand même le... Oui, je pense qu'il y a... Je ne saurais pas dire quoi exactement, mais c'est important. Le premier camp, qui était une sorte de camp de triage, mon père avait adoré les camps en Suisse. Il en gardait un souvenir. Et surtout du premier, où il y avait plein de grandes personnalités, Manès Perber... Lucien Goldman, Boris Frankel, là, le Sherpa en trotskisme de Jospin. Voilà, donc, oui, je pense que c'est important. Puis bon, j'ai repassé le col de cou, comme ça. Bon, j'ai bien visualisé ce qu'avait été l'itinéraire. Donc, je pense que, oui, on peut s'en passer, mais c'est bien de le faire.
Très bien.